Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. De nombreuses personnes nous écrivent suite aux émissions. Ces personnes veulent vérifier les versets cités à la radio, versets que nous ne pouvons pas toujours mentionner, car le temps d'antenne qui nous est imparti est assez court. D'autres nous posent des questions auxquelles nous répondons en nous basant sur les Écritures, car celles-ci sont source de vérité. Malheureusement, il arrive que des personnes lisent la Bible avec des œillères, avec parti pris, en essayant d'y retrouver ce qu'ils ont toujours considéré comme leur vérité incontournable. Pour y arriver, elles rejettent une partie des Écritures. Certaines lettres que nous recevons illustrent cette triste façon de faire. La vérité est éparse dans les différents livres qui composent la Bible, exception faite des écrits apocryphes, qui n'ont jamais fait partie du canon des Écritures. Le prophète Ésaïe a écrit « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Il faut donc grouper les préceptes qui sont dispersés un peu partout dans les livres qui composent la Bible, afin de saisir la signification exacte d'un sujet déterminé. Au sujet de Dieu, Paul dit aux Athéniens, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Un correspondant nous pose cette question. La Bible est-elle fiable pour parler de l'âme, de sa survivance ou non, après la mort? C'est une excellente question. Toutefois, cet auditeur semble penser que la Bible n'est pas fiable pour répondre à cette question. Au sujet de ses apôtres, le Christ n'a pas hésité à demander à son Père « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et la parole de Dieu est la vérité. Néanmoins, ceux qui croient en l'existence d'une âme immortelle considèrent-ils les passages suivants comme vérité? Dans le livre des psaumes, « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts ?» Ensuite, « Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. » Enfin, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Dans le livre de l'Ecclésiaste, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni science, ou connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Dans le livre d'Ésaïe, « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Et dans le livre de la Genèse, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » En s'adressant ici à Adam, Dieu ne fait pas de distinction entre ce qui serait mortel en lui et ce qui pourrait être immortel. Tu retourneras à la poussière. Si ces versets devaient être écartés, alors nous devrions éliminer la Genèse. Si Moïse s'est trompé dans un seul verset, pourquoi n'aurait-il pas commis d'autres erreurs dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome, dont il est également l'auteur? Si nous éliminons ces livres, nous nous débarrassons des 10 commandements. Nous devrions aussi écarter le livre d'Ésaïe, ainsi que ce qui a été rédigé par le roi Salomon, les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Puisqu'Ézéchiel a écrit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra », si ce prophète raconte aussi n'importe quoi, éjectons son livre des Écritures. Le Christ a affirmé, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Si l'âme était immortelle, une expression que l'on ne trouve pas dans les Écritures, le Christ n'aurait pas fait une telle affirmation. Alors, faut-il éloigner du canon des Écritures tous les livres qui se réfèrent à lui? L'apôtre Paul a écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. si tous ces livres sont à écarter, et si l'apôtre Paul s'est trompé en déclarant toutes ces écritures d'inspiration divine, tant qu'à faire, éliminons toutes ces épîtres, et il ne restera plus que la couverture de notre Bible. Ce qui heurte mon correspondant, c'est le passage suivant. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. À cela, il me brandit le verset suivant. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Certainement, nous valons beaucoup plus qu'eux, aussi longtemps que nous sommes en vie. Mais à la mort, tant pour les humains que pour les animaux, tout retourne à la poussière. À la mort, il n'y a donc aucune supériorité entre les hommes et les animaux. L'apôtre Paul a écrit, « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Tous ceux-là, nommés dans ce chapitre, sont Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, etc. S'ils avaient une âme immortelle qui baigne dans les béatitudes célestes et qui se trouverait aujourd'hui près du Seigneur, qu'auraient-ils à espérer de meilleur? Le mot « âme » est traduit de l'hébreu « nefesh » ou du grec « psyché ». Il se rapporte à toute créature vivante ou morte, soit homme ou animal. Nulle part dans la Bible il est question d'une âme immortelle. Par exemple, lors de sa création, Adam devint un être vivant. Adam devint une âme vivante, traduit de l'hébreu nefesh. Le sixième jour de la recréation, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Le mot animaux est traduit de nefesh, ils sont donc eux aussi des âmes vivantes. Mais lorsque l'homme ou l'animal meurt, il devient une âme morte. Le sacrificateur ne se rendra pas impur pour un mort, nefesh. Mais alors qu'est-ce que l'âme? La Bible nous répond, « L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Si vous croyez en une survivance après la mort, alors il semble que vous oubliez ce que l'apôtre Jacques a écrit, « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » On me cite également le passage suivant, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui interroge les morts. » Et on y ajoute le récit du roi Saül et de la sorcière d'Endor. Mais qu'en était-il? Samuel était mort. Les Philistins avaient rassemblé leur armée pour faire la guerre à Israël. À la vue du camp ennemi, Saül fut saisi de crainte. Voulant connaître l'issue de la bataille, le roi consulta l'Éternel qui ne lui répondit point. Puisque Dieu refusait de répondre à ce roi rebelle, Saül ordonna à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Il alla trouver la femme et lui dit, « Fais-moi monter Samuel. » La sorcière vit alors une forme qu'elle prit pour Samuel. Elle n'affirma pas qu'il s'agissait du prophète, mais Saül, qui voulait absolument une réponse, crut comprendre, mais bien à tort, qu'il s'agissait de Samuel. De toute façon, lui, il ne voyait rien. Ce que la sorcière a vu était un esprit, un démon, ce n'était pas le prophète Samuel qui était décédé, il n'était pas au ciel, il était mort. Et même s'il s'était trouvé vivant au ciel, puisque l'Éternel refusait de répondre au roi Saül, vous pensez bien qu'il n'aurait pas permis à Samuel de répondre au roi. Sous le couvert d'esprit des morts, les démons séduisent ceux qui font appel à eux. Comment ce démon connaissait-il ce qui arriverait le lendemain? La Bible révèle que Dieu fait connaître ses projets aux esprits, même aux esprits iniques. On me cite encore ce que Salomon a écrit. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le mot « esprit » n'est pas l'âme. Il est traduit de l'hébreu « ruach » ou du grec « pneuma ». Il est différent de l'hébreu « nefesh » ou du grec « psyché » qui se rapporte à un homme ou à un animal vivant ou mort. Il s'agit de l'intelligence. Voici quelques passages où il est question de cette intelligence qui permet aux hommes de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit, pneuma, de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit, pneuma, de Dieu. Aussi longtemps que l'homme est vivant, il possède cette intelligence qui lui permet de discerner, de comprendre, de réfléchir sur tout ce qui l'entoure et sur lui-même. Mais dès sa mort, cette intelligence qui n'est pas une vie, une âme, ni une conscience, retourne à Dieu. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En recevant le souffle de vie, l'homme reçoit cette intelligence qui lui permet d'avoir un comportement qui le différencie du règne animal, de former son caractère, d'étudier, d'avancer vers la perfection. Voici encore quelques passages qui me sont avancés pour prouver qu'il y a une vie après la mort. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Quand fait-il remonter du séjour des morts? Ce sera lorsque l'heure de la résurrection viendra, pas avant. David a écrit « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Lorsque David écrivit ceci, il était toujours vivant, il n'était pas encore entré dans le séjour des morts. Mais David eut de nombreux ennemis, et il avait craint pour sa vie. Il avait peur de mourir, peur de descendre dans le séjour des morts, et il ajouta « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité ?» Ceci est très clair et ne mérite aucune explication. Certaines personnes croient en la réincarnation et citent « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Mais ceci n'a rien à voir avec la réincarnation. Dieu est capable de savoir qui et quand une personne qu'il souhaite utiliser viendra au monde. C'est ce qui s'est passé avec Cyrus, avec Jean-Baptiste. Si vous voulez recevoir notre étude sur la réincarnation, il vous suffit de nous la demander, elle est mise gratuitement à votre disposition. Enfin, on cite « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Ce verset montre que la perversion et le mensonge s'implantent dans le cœur de l'enfant dès sa naissance parce que ses parents le négligent et ne le corrigent pas quand cela s'avère nécessaire. Enfin, dans le passage où Jésus déclare au malfaiteur qu'il sera avec lui dans le paradis, on m'écrit que la fameuse virgule est bien placée après le mot « vérité » et non pas après « aujourd'hui ». Si mon correspondant a raison, et si le Christ est bien monté au paradis avec le malfaiteur le jour de sa mort, pourquoi déclare-t-il le dimanche matin à Marie de Magdala « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Une étude intitulée « Le Christ a-t-il prouvé sa divinité ?» est à votre disposition, elle est gratuite et il vous suffit de la demander. Pour comprendre un sujet déterminé, vous devez, comme le dit la Bible, retrouver tous les passages qui en parlent. Et alors seulement, vous pourrez comprendre et conclure que les Écritures ne se contredisent jamais. N'oubliez pas que votre vérité ne pourra jamais être la vérité et reconnaissez pour vrai ce que le Christ a affirmé en s'adressant à son Père, « Ta parole est la vérité ».